Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
20h passées de 13 minutes, ce soir on s'intéresse au géant chinois des télécoms Huawei sur France Culture dans le club de la presse numérique. Et pour en parler, je reçois Emmanuel Paquet de L'Express qui est resté avec nous et Romain Pigenel, ancien conseiller à l'Élysée et partenaire chez Futur. Au pluriel.io. Alors Huawei, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, encore que vous avez sans doute ou peut-être un téléphone de cette marque. Pourtant, l'entreprise est le second constructeur mondial de smartphones derrière Samsung, mais devant Apple et ses iPhones. L'autre activité clé de l'entreprise, c'est de vendre des réseaux de télécommunications aux opérateurs. Or, en 2019 pourrait être l'année du début du déploiement de la 5G et Huawei est en lice pour opérer sur le marché français. Depuis quelque temps, cependant, l'entreprise chinoise est accusée d'espionnage par plusieurs acteurs occidentaux. Huawei entre espionnage et guerre technologique avec les États-Unis, c'est le sujet de ce club de la presse. Emmanuel Paquet pour commencer ce débat.
Oui, effectivement, Huawei, alors comme vous le disiez, c'est un acteur de télécom qu'on connaît depuis longtemps. Il était spécialisé dans l'infrastructure de réseau au départ, c'est-à-dire c'est lui qui fournissait ce qu'on appelle les DSLAM, alors pour pas être trop technique, mais c'est la manière aujourd'hui de doper le réseau de cuivre que vous avez à la maison, votre réseau téléphonique, pour avoir de l'internet à très haut débit. Et puis après ça, ils sont passés sur la fibre optique, et puis petit à petit, ils sont sortis de l'infrastructure pour arriver sur les terminaux. Donc aujourd'hui, le grand public les connaissent plus, effectivement, pour les téléphones, les smartphones, qui sont vendus par millions, centaines de millions, ou dizaines de millions un peu partout sur la planète. Alors c'est une société qui a été montée et créée par un ancien général de l'armée chinoise, ce qui aujourd'hui en fait fait penser à plusieurs États, dont les États-Unis, mais d'autres pays ont suivi, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et très récemment le Japon, qu'il y aurait des liens assez puissants et assez forts entre cette entreprise de télécommunications et le pouvoir chinois, puisque d'une part cette société n'est pas cotée, donc on n'a pas accès directement à ses comptes, même si elle publie son rapport annuel chaque année sur son site, et les salariés sont également intéressés au capital. Mais cette société reste quand même assez opaque dans son fonctionnement. Et certains services de renseignement sur la planète estiment que dans tout le matériel Huawei qui serait vendu sur la planète, il y aurait de ce qu'on appelle des backdoors, ce qu'on appelle en fait des portes dérobées, c'est-à-dire des portes cachées, à travers lesquelles le gouvernement chinois et ses services de renseignement pourraient accéder à distance à des données partout où Huawei a pu vendre des systèmes d'infrastructures de réseau, que ce soit pour la 4G ou la future 5G dont on vient de parler.
Romain Pigenel.
Oui, ben alors effectivement, il y a le sujet des backdoors. Il y a aussi le doute ou l'idée justement que ces grandes entreprises chinoises, qui sont un peu dans un complexe qui ressemblerait à ce qu'on appelait avant le complexe militaro-industriel, sont très très liées à l'État et ne seraient pas en capacité, même parfois juridique, de résister à des demandes d'informations sur les flux d'informations qui traversent. Et puis un troisième sujet qu'on a vu en France et qui a aussi été critiqué, c'est que, mais comme d'autres entreprises, on pourra en parler, elles essaient aussi justement de faire un peu, je dirais, de la prédation intellectuelle, de brevets, et donc de monter des partenariats avec les centres de recherche, avec les universités, dans des conditions. Alors je ne sais pas si ça a été vérifié, mais en tout cas, ça a souvent été accusé de proposer des contrats très léonins, très draconiens aux entreprises, enfin aux universités européennes, et d'obtenir, par exemple, de la recherche sur les infrastructures en échange d'exclusivité, de récupération totale de tous les droits intellectuels. Donc, il y a aussi l'idée qu'il y a une espèce de prédation intellectuelle qui aurait lieu. Moi, je crois que ce sujet il est intéressant parce qu'il est finalement emblématique de trois thématiques qui sont très fortes dans le numérique et la géopolitique numérique. Actuel. Il y a d'abord effectivement le retour de toutes les suspicions d'espionnage industriel, et ça va même au-delà aujourd'hui, puisqu'avec le basculement d'une société, d'une économie de la data, où il y a de plus en plus de sujets de confiance et effectivement aussi de communication étatique importante qui sont basculés sur les réseaux, il y a cette problématique qui va être de plus en plus forte. Il y a derrière la résurgence d'une espèce de guerre froide 2.0, pour prendre un terme qui veut un peu tout et rien dire, mais qui est quand même vrai, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe, c'est que pendant quelques années, on a entendu dire finalement le numérique, ça va être la disparition des États, on va avoir maintenant des GAFA qui sont plus forts que les États, qui les surpassent. Mais ce qui revient au bout du compte, finalement, c'est l'adossement, j'avais pris tout à l'heure à dessein le terme de complexe militaro-industriel, de grandes puissances économiques qui ont leurs propres géants industriels numériques et qui se font face les uns contre les autres. Alors on a, à partir de ça, des diplomaties d'influence à coup de décrets, d'interdictions d'infrastructures, avec quand même, et ça c'est le troisième point le plus inquiétant là-dedans, une Europe qui semble bien isolée isolé entre deux blocs américains et chinois, avec chacun leur puissance juridique, économique, leur géant, et nous, entre les deux, à essayer de se battre avec nos petits bras. Et ça, c'est le troisième sujet, c'est celui de la souveraineté numérique, et notamment celle de l'Europe numérique et technologique entre ces nouveaux géants de cette nouvelle guerre froide.
Alors, dans l'actualité, Emmanuel Paquette, il y a aussi, et c'est évidemment ce qui nous amène à en parler ce soir, et qui montre que, d'une certaine manière, la guerre est déclarée, l'arrestation de la directrice financière du groupe, donc, en l'occurrence, concernée. Elle s'appelle Meng Wanzhou, elle est également la fille du PDG, elle a été arrêtée au Canada, et donc là, on a vu, d'une certaine manière, la bataille entre les États-Unis, ou en tout cas entre le monde américain du Nord et la Chine, se concrétiser.
Oui, effectivement. Alors, elle était en transit à Vancouver, au Canada, lorsqu'elle a été arrêtée. Elle a été arrêtée par le Canada, mais à la demande des États-Unis, qui veulent qu'elle soit extradée sur le territoire américain. Alors, ce qui lui est reproché, en tant que directrice financière, c'est d'avoir vendu des systèmes d'infrastructures de réseau à l'Iran. Et aujourd'hui, les États-Unis interdisent la vente d'infrastructures de réseau.
Pour ou même contourner l'embargo
américain. Ouais. C'est ça, exactement. C'est quand même disons, des soupçons qui pèsent sur Huawei depuis un certain temps. À plusieurs reprises, la société s'en est défendue en disant que c'était absolument faux. Il se trouve que l'administration américaine aurait trouvé un espèce de fauné, une entreprise par laquelle Huawei serait passé pour effectivement vendre du matériel sur le territoire iranien. Donc derrière, la réaction a été une réaction assez forte, notamment de Huawei, mais aussi du gouvernement chinois, qui a demandé tout de suite des explications.
Les ambassadeurs américains,
exactement,
et canadiens.
Donc d'un problème d'entreprise, on est passé à un problème d'État à État, pour le coup. Donc c'est ce que disait un petit peu Romain tout à l'heure, c'est-à-dire que derrière, en fait, Huawei, on voit bien qu'il y a des liens puissants avec le gouvernement chinois. Et le gouvernement chinois a demandé à ce que Meng soit relâchée immédiatement et qu'elle puisse repartir en Chine, ce qui n'a pas été fait pour le moment. Elle a été relâchée sous caution, mais elle est toujours sur le territoire canadien. Et donc, il y a eu un peu
montée d'adrénaline
entre les deux pays. Et derrière ça, les marchés financiers ont chuté lourdement, puisque comme il y a aujourd'hui des négociations en cours entre la Chine et les États-Unis pour le commerce, dans le commerce mondial, ces tensions autour de l'industrie des télécoms laissent craindre une guerre commerciale beaucoup plus forte entre la Chine et les États-Unis.
Alors sur ce débat, il y a évidemment, c'est une sorte d'illustration de la guerre technologique. On sait que les États-Unis imposent depuis juillet des sanctions douanières aux importations chinoises. Et nombre d'observateurs jugent que la principale crainte des États-Unis est en fait l'avance technologique que prendrait la Chine dans un certain nombre de secteurs, notamment les télécommunications, en utilisant des moyens qui parfois ne sont pas conformes aux règles du commerce international. Romain Péginel.
Déjà, il y a toute évidence un rattrapage chinois qui est en cours. Alors, il était probablement inéluctable, mais quand on regarde les chiffres, alors sur l'économie, je pense que de manière générale, il me semble que maintenant, on a à peu près un niveau d'égalité. Quand on regarde, par exemple, l'investissement sur tout ce qui est dépenses en recherche militaire, les États-Unis sont encore devant. Je crois qu'on est sur un rapport de 1 à 11. Sur les brevets, pareil, je crois que c'est sur la technologie, chaque année, on est sur un rapport de un peu plus de 10 000 côté américain à 2 000 côté chinois. Mais quand on regarde les courbes, ce qui est évident, c'est que ça va de manière inexorable vers un rapprochement, si ce n'est un croisement. Et déjà, j'ai vu passer ce chiffre qui m'a étonné, peut-être que Emmanuel Paquette pourra corriger le cas échéant, mais quand on regarde la fabrication d'appareils électroniques dans le monde, je crois qu'on est à 89% d'appareils qui sont fabriqués par les Chinois. On voit aussi toute l'avance qui est prise dans l'industrie spatiale, etc. Donc, de toute évidence, et encore une fois, simplement application de la loi des grands nombres, parce que énorme marché intérieur, parce que main d'œuvre à bas prix, ça change peut-être, mais qui a permis au moins une phase d'amorçage à ces géants économiques de partir très vite avec un gros avantage industriel. Je ne veux pas dire pillage de brevets, mais en tout cas une vraie réelle politique par rapport à ça.
Voilà. Copie de brevets.
Et puis une puissance d'investissement qui est colossale. Donc quand vous mettez tout ça au bout à bout, ça ne peut aller que dans le sens, effectivement, à moyen terme, si ce n'est en tout cas d'un dépassement, d'un rattrapage et évidemment d'une réaction dure des États-Unis. Parce que par ailleurs, vous parliez donc de ce qui s'est passé avec la numéro 2, je crois que c'est ça, de Huawei, mais les États-Unis n'hésitent jamais à justement faire avancer en même temps appareil judiciaire, appareil économique pour mener une guerre économique. Et je crois que dans les dernières années, contre les seuls pays, les entreprises européennes, c'est 20 milliards d'amendes qui ont été par exemple infligées par les États-Unis sur des procès relatifs soit à des accusations de commerce avec des pays interdits, donc Iran, Cuba, etc., soit sur des accusations de corruption en utilisant un dispositif complexe d'extraterritorialité qui permet à la justice américaine de poursuivre des entreprises étrangères, y compris pris pour des faits qui n'ont pas eu lieu, tant qu'elles utilisent des fonds américains et technologies américaines, etc.
Dollars américains.
Voilà, absolument. C'est ce qui est arrivé en l'occurrence à Alstom. C'est aussi ce qui est arrivé à BNP pour commerce avec l'Iran. Donc, on voit bien qu'il y a encore une fois un pays en plus qui est prêt, et avec Trump encore plus, à utiliser tous les méthodes, je dirais, qu'elles soient économiques, juridiques, diplomatiques, pour mener une guerre, je dirais, extrêmement résolue à tout ce qui pourrait sembler remettre en cause son hégémonie.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors, et l'autre problématique concernant Huawei, c'est qu'avec la 5G dont on parlait précédemment, c'est une technologie qui va aller bien au-delà de simplement des télécommunications, comme on peut le voir aujourd'hui, puisque la 5G va ouvrir des nouveaux espaces, notamment pour la téléphonie mobile, mais ça, c'est ce qui était déjà le cas avec la 4G et la 3G, mais également la voiture connectée, la voiture autonome, avec l'Internet des objets. Et c'est-à-dire que qui maîtrisera ce réseau-là? Cette technologie-là maîtrisera l'ensemble des objets qui y seront connectés indirectement, ce qui fait craindre effectivement aux services de renseignement la mainmise sur énormément d'objets, énormément de données qui vont transiter dans ces objets-là, et la possibilité d'espionner à peu près n'importe qui, n'importe quand, si d'aventure Huawei le fait. Alors, dernière petite chose quand même, Huawei, ils ont dit qu'ils étaient traités de manière totalement injuste par les autorités américaines et plusieurs pays dans le monde, et ils ont dit de toute façon... Et pour le coup, ils n'ont pas totalement tort. C'est comme si vous vouliez jouer un match de NBA avec la 5G, hein, sans avoir de star vedette au sein de votre équipe. Aujourd'hui, Huawei, c'est pas simplement un copycat qui fait des technologies relativement peu chères. Ils sont en avance technologique sur leurs principaux concurrents, qui sont Nokia, qui est maintenant à moitié finlandais, à moitié français, à moitié américain, après l'absorption d'Alcatel-Lucent, et le suédois Ericsson. Et c'est vrai que Huawei est largement leader par rapport à ces deux Européens-là. Et du coup, c'est difficile de la rattraper. Ils ont une force de frappe qui est faramineuse. Ils font plus de 100 milliards de chiffres d'affaires aujourd'hui.
Et ils ont un marché qui est d'ailleurs très européen.
Oui, c'est-à-dire qu'ils font 50% de leur chiffre d'affaires en Chine et 27% en Europe et au Moyen-Orient, qui est leur deuxième bassin de croissance.
Donc au fond, les États-Unis n'est pas la priorité pour eux.
Ça n'a jamais été vraiment leur priorité. Ils n'ont jamais réussi à pénétrer le marché américain, justement à cause des restrictions du gouvernement américain sur la vente de matériel Huawei.
Zoé 16.
On est sur un espèce de partage du monde. Les Américains n'ont pas réussi à pénétrer le marché chinois, notamment en termes de communication et d'internet, parce qu'il y avait cette fameuse muraille de Chine théoriquement politique, mais qui a en fait permis quand même une émergence de grands champions économiques comme ça. Est-ce que aussi la question qui peut se poser aujourd'hui, c'est celle finalement d'une inversion première grande inversion de l'hégémonie en faveur des Chinois? Comment est-ce que, par exemple, l'Europe, dans cette espèce de combat entre les deux, vous paraît ou pas pouvoir vaciller à tous les deux,
Romain Pigenel,
dans les années qui viennent?
Au fond, quelles répercussions pour la France,
qui aujourd'hui dépend quand même, qui est beaucoup plus pénétrée par des géants plutôt américains?
Je crois que le problème, c'est comme toujours, c'est le nerf de la guerre. Est-ce qu'on a l'argent? Est-ce qu'on a la technologie? On a peut-être l'argent, mais le fait est que Emmanuel Paquette le disait tout à l'heure, typiquement sur un sujet aussi crucial que celui des infrastructures 5G, a-t-on la capacité industrielle en Europe pour équiper tous les providers justement de 5G avec du matériel européen sûr, etc. Je crois que la réponse, elle est non. Donc à partir de là, on a un vrai sujet. Et je crois que le problème, si on remonte un peu en amont, alors on a aussi nos armes. On a nos armes, nous, qui sont des armes de régulation, etc. Sur un sujet peu éloigné, on a vu avec le RGPD qu'on était en capacité, avec du soft power, avec de la puissance un peu faible, d'arriver malgré tout à mettre en place des cadres normatifs.
Même, tout le monde s'est dit, on a quand même essayé, on rentre dans la bataille avec des petites armes 40 ans après, comme si on débarquait. Comment est-ce qu'on peut justement regarder? On n'a pas réussi à avoir des leaders hégémoniques européens. On s'est quand même complètement fait pénétrer par des acteurs américains. Est-ce qu'aujourd'hui, on va rester du côté des Américains? Est-ce qu'on peut être pénétré aussi par des Chinois? Est-ce que c'est l'occasion potentiellement d'avoir des leaders européens? On a l'impression que non.
C'est-à-dire qu'il y a déjà des leaders européens. Un Spotify aujourd'hui, c'est quand même un leader européen du numérique. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et par ailleurs, sur l'infrastructure réseau, il faut savoir qu'aujourd'hui, les opérateurs chinois, il y en a trois seulement pour un marché d'un milliard et demi de potentiels abonnés. On est quasiment à 950 millions d'abonnés au téléphone mobile en Chine, donc c'est un marché qui est gigantesque. Et pour trois opérateurs qui s'équipent en Huawei, effectivement, mais ils s'équipent aussi en Alcatel-Lucent, enfin ex-Alcatel-Lucent, en Nokia et en Ericsson. Donc, parce que les Chinois sont pas plus bêtes que les autres, ils veulent pas protéger leur marché, parce qu'ils savent que s'ils protègent totalement leur marché, ils pourront pas exporter. Donc, ils sont quand même obligés de s'ouvrir, justement, aux technologies européennes et aux technologies américaines. La question est de savoir quel est le ratio entre ce qu'on fait nous-mêmes, enfin entre guillemets en Chine, et ce qu'ils exportent, ce qu'ils importent en termes de technologie qui vient de l'extérieur. Et l'idée est de savoir aujourd'hui aussi ce que veut l'Europe. Est-ce que pour l'Europe, il est important de sécuriser ses réseaux de télécommunications avec des technologies européennes ? Et aujourd'hui, force est de constater qu'il en existe relativement plus ou peu, avec Ericsson et Nokia qui sont relativement faibles face à Huawei. Et donc c'est quasiment une partie déjà perdue.
Romain Piginel, le mot de la fin.
Et bon, après, il faudrait, je pense aussi, pas tomber dans une sinophobie caricaturale, parce que c'est vrai que ça rappelle aussi un peu, comme disait Emmanuel Paquette, est-ce qu'il y a des preuves patentes, etc. Et il y a aussi d'autres espionnages avérés, d'autres fuites de données qui viennent de géants bien américains. Et la question, c'est aussi celle, justement, de l'éducation, aussi, je dirais, du personnel politique. On sait que Huawei a été accusé, peut-être, voilà, dans les voitures connectées, dire, est-ce qu'il peut y avoir des fuites de données, etc. Mais les chauffeurs officiels ont toujours permis d'être la première source de taupes et d'informations. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir une vision de hauteur. Il n'y a pas des méchants chinois, des gentils américains. Mais la question, c'est que fait l'Europe face à deux géants qui sont en capacité de le prendre en étau.
On reviendra sur ce sujet dans une émission Soft Power qui sera entièrement dédiée à la bataille entre la Chine et les États-Unis sur le numérique. Ça nous permettra de recevoir d'ailleurs, de revoir notre ami Pierre Aski,